Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Fragile cessez-le-feu en Syrie, les combats ont baissé d'intensité ce soir à l'initiative des Russes et des Américains. Les groupes djihadistes ne sont pas concernés par cette trêve. Nous ferons le point avec Eric Biegala dans un instant. Donald Trump souhaite un prompt rétablissement à Hillary Clinton. Le candidat républicain se garde pour l'instant d'exploiter les soucis physiques de sa rivale. Hillary Clinton souffre d'une pneumonie qui l'oblige à interrompre sa campagne. Frédéric Carbone nous appellera de Washington. En France, le gouvernement tente de sauver l'usine Alstom de Belfort, menacée de fermeture. L'enjeu est crucial pour la crédibilité industrielle de François Hollande. C'est ce que nous expliquera Stéphane Robert, invité de ce journal Jean-Michel Quatrepoint, le journaliste auteur du livre Alstom, un scandale d'État. Faut-il y croire ? En tout cas, la trêve négociée par les Russes et les Américains semble tenir ce soir en Syrie. Un calme relatif règne dans le pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le secrétaire d'État américain John Kerry parle lui aussi d'une décrue des violences. Le régime Assad s'est engagé à respecter l'accord, de même que plusieurs groupes rebelles. En revanche, Eric Biegala, les djihadistes sont exclus des négociations de paix.
Cet accord de cessez-le-feu, c'est d'abord une trêve de 48 heures et qui concerne les zones de Syrie qui ne sont pas sous le contrôle des djihadistes de l'État islamique, lesquels ne sont pas concernés par le cessez-le-feu, pas plus que ne l'est le front Fatah al-Sham, les djihadistes anciennement liés à Al-Qaïda et qui se battent avec la rébellion. Cette trêve, renouvelable si elle tient de 48 heures en 48 heures, doit permettre le ravitaillement humanitaire des zones assiégées, notamment les quartiers est d'Alep, que les forces pro-régime ont réussi à réassiéger complètement depuis une semaine. Difficile de dire si ces trêves renouvelables pourront effectivement se concrétiser sur le terrain. De toute façon, la teneur de l'accord de cessez-le-feu russo-américain ne laisse pas d'étonner. C'est la première fois en effet qu'on voit un accord de cessez-le-feu prévoir explicitement une reprise des combats. Or, il prévoit en effet cet accord à terme, mais à court terme, soit d'ici une semaine, si les cessez-le-feu renouvelables tiennent jusque-là, que les avions russes et américains attaquent ensemble en Syrie à la fois les forces de l'État islamique et celles du front Fatah al-Sham. Or, le front Fatah al-Sham, l'ancien front al-Nosra, fait partie intégrante des unités de la rébellion armée, notamment sur des fronts comme celui d'Alep ou celui d'Idlib au nord-ouest du pays. Il sera difficile aux Américains comme aux Russes de distinguer les djihadistes des rebelles.
Eric Biegala, merci. On notera cette déclaration ce soir de John Kerry pour le chef de la diplomatie américaine. Le plan américano-russe est peut-être la dernière chance de sauver la Syrie. La guerre civile qui ravage le pays depuis 5 ans maintenant a déjà fait plus de 290 000 morts et des millions de déplacés. Venons-en maintenant à la campagne électorale américaine qui a peut-être connu un tournant ce week-end. Hillary Clinton apparaît désormais très affaiblie, au propre comme au figuré. Il y a eu tout d'abord cette bourde de la candidate démocrate qui a traité de pitoyable la moitié des électeurs de Donald Trump. Elle a depuis exprimé ses regrets. Il y a eu surtout ces images montrant Hillary Clinton malade lors des cérémonies du 11 septembre. L'ex-First Lady souffre en fait d'une pneumonie qui l'oblige à suspendre sa campagne pendant 48 heures. Alors ce pourrait être une aubaine pour son adversaire républicain, mais Donald Trump a choisi la discrétion et la courtoisie pour évoquer la maladie d'Hillary Clinton. Frédéric Carbone nous appelle de Washington.
Avec ce diagnostic de pneumonie, la santé d'Hillary Clinton fait désormais partie de la campagne. Ce constat est à la une de toute la presse américaine, en version sérieuse comme le Washington Post qui considère qu'il est temps que des gens raisonnables posent des questions raisonnables, en version plus agressive comme le tabloïd New York Post qui dans un éditorial insinue que c'est peut-être à cause de sa santé qu'Hillary Clinton donne aussi peu de conférences de presse. La candidate démocrate est donc invitée à s'expliquer, à détailler son bulletin médical. Du coup, Donald Trump n'a pas besoin d'en rajouter. Voici son premier commentaire ce matin sur Fox News. Il y a visiblement quelque chose, mais j'espère que ça ira mieux, qu'elle retournera en campagne et qu'elle sera au débat. Moi, j'ai passé des examens la semaine dernière, et quand j'aurai les résultats, je les donnerai de façon détaillée. Donald Trump qui joue la transparence, il est vrai que jusqu'à présent son bulletin de santé se résume à quelques lignes griffonnées selon son médecin sur un parking, un certificat de forme olympique qui mérite d'être détaillé. Jamais depuis l'après-guerre les Américains n'ont eu deux candidats aussi âgés face à face et jamais ils ont été aussi peu informés de leur état de santé.
Frédéric Carbone, notre correspondant aux États-Unis, rappelons qu'Hillary Clinton est âgée de 68 ans, Donald Trump lui en a 70. Une nouvelle page politique se tourne au Royaume-Uni. Trois mois après avoir démissionné de son poste de Premier ministre, David Cameron abandonne son siège de député conservateur. Il était l'élu de Whitney dans l'Oxfordshire. Le Brexit avait emporté David Cameron en juin. Il renonce aujourd'hui à sa dernière tribune parlementaire. Antoine Gignot.
Ce n'est pas vraiment possible d'être un député efficace lorsqu'on a été Premier ministre. Voilà ce que dit David Cameron, 3 mois après son départ du 10 Downing Street, l'ancien chef de file des conservateurs quitte le Parlement pour ne pas entraver l'action du gouvernement, ne pas devenir une distraction, dit-il, qui diviserait les conservateurs. Mais cette décision est aussi une manière habile de prendre de la distance avec celle qui lui a succédé. Officiellement, David Cameron salue l'action de Theresa May, mais il le reconnaît, il n'est pas toujours d'accord avec les arbitrages de la Première ministre. La réforme du collège, le contrôle des frontières et surtout le dossier du nucléaire et les négociations autour de la construction du réacteur Hinkley Point stoppé net cet été. David Cameron s'en va donc, le cœur lourd, dit-il, tout en précisant qu'il continuera à participer à la vie politique. Dans la tête des Britanniques, il reste celui qui a réformé le Parti conservateur, fait adopter la loi sur le mariage homosexuel, un peu engoncé tout de même dans le costume d'un ex-premier ministre responsable du Brexit.
Antoine Gignot, notre correspondant à Londres. En Autriche, le pays devra revoter pour choisir son président, on le sait. Eh bien, la date a changé, ce sera finalement le 4 décembre prochain. La première date initialement annoncée début octobre n'était pas tenable. Les enveloppes déjà acheminées ne collent pas, le matériel de vote était donc défectueux. Rappelons que ce deuxième tour de la présidentielle autrichienne oppose le populiste Norbert Hofer à l'écologiste Alexander Van der Bellen. En France, le gouvernement se démène pour sauver l'usine Alstom de Belfort. 400 emplois sont en jeu. Rappelons que la direction du groupe veut fermer le site dont les activités ferroviaires seraient transférées dans une autre usine Alstom, celle de Reichshoffen en Alsace. François Hollande a fixé le cap ce matin, maintenir la production de locomotives à Belfort. Le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis, s'est montré encore plus explicite ce soir. Le site ne fermera pas, il continuera à produire du matériel ferroviaire dans les mêmes proportions aujourd'hui. Stéphane Robert, à l'évidence, le dossier Alstom est vital pour la crédibilité industrielle de François Hollande.
François Hollande a mis la pression sur son ministre de l'économie Michel Sapin ce matin et cet après-midi, il a indiqué que l'État devait se mobiliser pour soutenir la filière ferroviaire d'Alstom. Politiquement, à quelques mois de la présidentielle, François Hollande sent bien le potentiel dévastateur de cette affaire Alstom. Déjà parce que ça rappelle l'histoire des hauts fourneaux de Florange en Moselle, dont l'État n'avait pas pu empêcher la fermeture en 2013. Ensuite, parce qu'Alstom est présent à Belfort depuis la fin du 19e siècle, ce serait donc un symbole de plus de l'inexorable désindustrialisation de la France. Aussi parce que cette fermeture d'usine, même si une grande partie des salariés sont reclassés, n'est pas vraiment un bon signal pour un président qui a conditionné une nouvelle candidature à la présidentielle à l'inversion de la courbe du chômage. Il y a encore le fait que le gouvernement en 2014 avait été contraint d'accepter le rachat de la filière énergie d'Alstom par l'américain General Electric, et ça malgré la mobilisation du ministre de l'époque, Arnaud Montebourg. D'ailleurs, l'une des compensations obtenues avait été l'entrée de l'État au capital d'Alstom à hauteur de 20%, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir son mot à dire. Et enfin, dernier symbole, ce qu'on retient de la loi Macron censé désengorger l'économie française. C'est surtout le développement du transport par autocar qui se fait en concurrence directe avec la SNCF et le transport ferroviaire. Et ça, ça n'a pas échappé à la candidate à la primaire à droite, Nathalie Kosciusko-Morizet. On nous a expliqué avec la loi Macron, dit-elle cet après-midi, qu'il fallait remplacer les trains par des cars. Et maintenant, on s'étonne qu'on ne fabrique plus de trains en France. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que François Hollande a fait de ce dossier une priorité.
Stéphane Robert, merci. Invité de ce journal, le journaliste économique Jean-Michel Quatrepoint, auteur du livre « Alstom, un scandale d'État ». Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Michel Quatrepoint, on l'a vu, Alain Vidalis annonce que l'usine de Belfort restera un site de production dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est une déclaration crédible selon vous ?
Ouais, elle est crédible à court terme. C'est-à-dire qu'on va gagner du temps, on va sans doute un peu tordre la main à la SNCF pour qu'elle passe quelques commandes pour alimenter le site de Belfort. Mais sur le fond, le problème demeure. D'abord, il faut bien comprendre que les difficultés d'Alstom Transport étaient inscrites dans l'accord qui a démantelé Alstom en vendant la partie énergie à General Electric.
C'est de là que viennent les problèmes d'Alstom aujourd'hui ?
Oui, en partie. Si vous voulez. Déjà, Alstom, quand Alstom avait l'énergie et le ferroviaire, était déjà un petit acteur face aux multinationales, aux conglomérats que sont General Electric, Siemens et Mitsubishi. En vendant la partie énergie à General Electric, Alstom s'est amputé à peu près des 2/3, 3/4 de son chiffre d'affaires. Résultat, Alstom Ferroviaire est une petite entreprise sur un marché hyper concurrentiel. Ils ont face à eux Bombardier, Siemens, mais aussi les Chinois qui dumpent évidemment à tour de bras. Ensuite, je pense que les anciens dirigeants d'Alstom ont fait de graves erreurs. Et c'est le cas de Patrick Cron, qui aujourd'hui d'ailleurs est parti, il s'est tiré. Hein, et il a laissé le bébé à Poupart Lafarge. Donc, quelles sont ces erreurs? Bien, ces erreurs, c'est d'abord de ne pas avoir investi suffisamment dans les innovations en matière de TGV et de trains du futur. C'est-à-dire que Alstom s'était un peu endormi sur ses lauriers. Deuxième erreur, c'est que Alstom s'était mis à dos ses grands clients français, EDF et SNCF, avec le caractère de M. Cron, qui estimait que ces entreprises publiques ne lui passaient pas suffisamment de commandes, et il a même été jusqu'à leur faire des procès. Donc ça n'améliore pas les choses. Ensuite, troisièmement, effectivement, la SNCF est obligée de passer par les procédures d'appel d'offres. Hein, c'est ainsi. Et que dans ces appels d'offres, Alstom n'est pas forcément toujours le mieux disant en termes de prix et en termes d'innovation et de qualité des produits.
En fait, vous nous dites, Jean-Michel Quatrepoint, que le problème d'Alstom, c'est d'être un petit acteur là oui. où il faudrait que ce soit un véritable conglomérat.
Oui, tout à fait. Mais c'est une erreur qui remonte à 20 ans. C'est une erreur que les Français ont commise et le management français et l'État, qui n'est plus un État stratège, ont commis il y a une vingtaine d'années. Autrefois, vous aviez un groupe qui s'appelait la Compagnie Générale d'Électricité, qui était l'équivalent de Siemens et de Mitsubishi et de General Electric. Et en plus, ce conglomérat à la Générale Électricité, c'était Alcatel-Alstom. Il y avait Alcatel. On a découpé tout ça, on a perdu Alcatel, on a perdu les chantiers de l'Atlantique, on a perdu Alstom Énergie, et maintenant, le ferroviaire est en grande difficulté.
Résultat, Alstom n'a plus les moyens d'investir dans le ferroviaire pour innover.
Pas assez, parce qu'ils n'ont plus la surface financière nécessaire. Et de la même façon, sur l'exportation. L'exportation, aujourd'hui, les marchés, par exemple, dont c'est gargarisé aux États-Unis, ben, il y a bien évidemment la production locale. Donc, pour les usines françaises, ça alimente très peu. Comprenez? Ensuite, les réseaux commerciaux. Quand vous avez un groupe qui fait 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vous amortissez votre réseau commercial sur un chiffre d'affaires conséquent. Mais quand vous n'avez plus que 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ben évidemment, ce réseau commercial, il s'est réduit. De la même façon, votre capacité de traiter avec les établissements financiers, voire avec les États, vous perdez de l'influence parce que vous avez perdu du poids. Donc c'est pour ça que l'erreur colossale, elle réside d'abord dans les erreurs de management de Patrick Cron, ensuite dans l'erreur du gouvernement français et de Patrick Cron d'avoir cédé à General Electric dans les conditions que l'on connaît et que j'explique longuement dans mon livre, des conditions qui sont de mauvaises conditions d'avoir cédé la partie énergie à General Electric. Et aujourd'hui, Alstom Transport se retrouve finalement en difficulté.
Jean-Michel Quatrepoint, le patron de la CGT, Philippe Martinez, met en cause l'écart Macron dans les déboires de la branche ferroviaire d'Alstom. Est-ce que c'est une explication recevable selon vous?
Alors, Emmanuel Macron est co-responsable de l'ensemble. Parce que Emmanuel Macron était à l'Élysée comme secrétaire général adjoint lorsque le dossier Alstom General Electric est arrivé sur la table. Et lors d'un conseil interministériel, le 19 juin 2014 à l'Élysée, c'est lui qui a poignardé Arnaud Montebourg dans le dos. Alors on a habillé la défaite de Montebourg à l'époque en se gargarisant et en disant « mais Montebourg a obtenu que l'État prenne 20% du capital de ce qui restait d'Alstom ». Hein, mais c'est un habillage, d'ailleurs c'est pas 20% du capital, c'est 20% des droits de vote. Ensuite, aujourd'hui on me dit « ah ben l'État pourrait peut-être prendre une minorité de blocage ». Mais on ne peut pas, parce que si l'État monte à plus de 30% du capital, il sera obligé par l'AMF de lancer une EPA sur la totalité du capital. Je vois pas Michel Sapin faire ça aujourd'hui. Hein, alors peut-être un autre gouvernement après mai 2017, mais Michel Sapin certainement pas.
Et l'affluence d'écart Macron, vous y croyez?
L'influence d'écart Macron? Non, absolument pas. Ça, l'écart Macron, c'est bon, c'est l'habillage. Mais Macron, lui, il s'est défaussé du dossier.
Jean-Michel Quatrepoint, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je rappelle le titre de votre livre, Alstom, un scandale d'État, ouvrage paru chez Fayard il y a tout juste un an. Les trois femmes soupçonnées d'avoir voulu commettre un attentat à Paris sont actuellement présentées à la justice, âgées de 19, 23 et 39 ans. Ces trois djihadistes avaient été interpellées jeudi soir dans l'Essonne, quelques jours plus tôt. Elles avaient, selon les enquêteurs, tenté de faire sauter une voiture chargée de bonbonnes de gaz près de Notre-Dame à Paris. La météo demain, toujours la chaleur, mais un changement de temps s'amorce par l'ouest. Il continuera à faire beau et très chaud sur une grande partie du pays, mais des nuages porteurs de pluie arrivent sur la façade atlantique, de l'Aquitaine à la Bretagne. Les orages vont se généraliser sur un grand quart sud-ouest. Les températures maximales, 30 à 35 degrés sous le soleil, 20 à 25 degrés à l'ouest sous les nuages. 22h15 sur France Culture, c'est la fin de ce journal préparé avec Annie Brault.